J'aimerais demander à Christophe, Geneviève, si, qui voudrait présenter un peu le pourquoi il y a une table comme ça au fond, là. Et en quelques mots.
Oui, alors en très peu de mots, hein. Je vais faire court. En fait, on se prend le courage d'introduire à l'Église ici une tradition. Une tradition... Mais plus près alors, ok. Donc, on prend le courage d'introduire une tradition. Une tradition, ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé. C'est quelque chose que d'autres ont pratiqué pendant longtemps et qui a un bon fond, qui nous sert à avancer avec le Seigneur, quoi. Et cette tradition, c'est la fête des moissons. Alors, la fête des moissons, elle a été, sous sa forme actuelle, un peu, je dirais, inventée par le milieu réformé. Et c'est en 1773 que la date en a même été fixée. Et il se trouve que par hasard, c'est aujourd'hui, parce que c'est le premier dimanche qui suit le 29 septembre, qui est la Saint-Michel. Et donc, c'est aujourd'hui, au niveau de toutes les paroisses réformées, beaucoup pratiquées en Allemagne, que se fait la fête des moissons. Et ce matin, en regardant sur Internet, je tape fête des moissons, et à Heiteren, la paroisse catholique l'a fait il y a 15 jours. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas spécifiquement protestant. C'est même des choses qui se pratiquent. Et puis d'ailleurs, quand on regarde sur Internet, la fête des moissons, il y en a de partout. Dans tous les villages, il y a des fêtes des moissons. Il y a juste des fois le côté religieux qui est oublié. On ne sait pas qui est-ce qui nous donne l'abondance des moissons. On pense que c'est les tracteurs et que c'est les fertilisants et tout ça. On oublie des fois que c'est Dieu qui donne tout ça. Il l'a donné il y a longtemps. S'il arrêtait de donner, ben, il n'y aurait peut-être plus rien. Quoi. Mais bon. Alors l'origine, par contre, ça ne date pas de 1773. En fait, cette fête, elle a une origine bien lointaine. C'est en fait dans Deutéronome que Dieu a demandé à son peuple de fêter certaines fêtes, dont celle-ci. Alors, je vais vous lire le texte, vite fait. Il est en trois versets. Dans Deutéronome 16, du verset 9 à 11. Donc, c'est juste après le descriptif de la fête de Pâques. Il continue. Donc, tu compteras 7 semaines, donc à partir de Pâques. Dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 7 semaines, puis tu célébreras la fête des semailles et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. La fête des semaines, voilà. Et donc, c'est une fête qui correspond à 50 jours après Pâques. Et 50 jours après Pâques, pour nous qui sommes plus loin que le Deutéronome, qui avons vécu l'an zéro entre-temps, qu'est-ce qui se passe 50 jours après Pâques? C'est la Pentecôte. Et donc, il se trouve que la Pentecôte correspond, dans le milieu juif, à la fête des moissons. Et bon, effectivement, ça se passe peut-être plus tôt dans la saison. Et culturellement, notre fête de la reconnaissance est plus basée sur la moisson de ce que nous récupérons dans nos jardins, dans nos vignes et tout ça. Donc, ça aurait plus sa place le jour de la Pentecôte même, sous cette forme, mais culturellement, il y a une autre fête, parce que le jour de la Pentecôte, il y a déjà beaucoup de choses à fêter, c'est super. Et donc, 50 jours après Pâques, Pentecôte, voilà. Et donc, si on fait un parallèle, dans l'Ancien Testament, il y avait la Pâque, il y avait la loi, il y avait la fête des récoltes. Et pour nous qui sommes dans le Nouveau Testament, la Pâque, elle a été, non pas mise de côté, mais elle a été... On en a rajouté une couche, il y a eu Jésus qui est mort pour nous, au lieu d'un agneau. La Pentecôte, qui était la fête de ce que Dieu a donné au peuple pour subvenir à ses besoins, la fête de la moisson, en fait, dans le Nouveau Testament, Jésus a rajouté le Saint-Esprit, d'ailleurs les arts du Saint-Esprit, même pas le tout, parce qu'on ne saurait même pas quoi en faire, tellement il y en a, et avec une promesse d'une moisson d'âme. Donc il y a tout un parallèle. Dieu a choisi les mêmes dates à la Pâque. Il a fait deux choses à Pâques. Il a célébré la Pâque pour la sortie d'Égypte et puis la Pâque pour Jésus. Et la Pentecôte, elle a une signification pour le peuple ancien et elle a une nouvelle signification pour nous. Et la moisson, ce n'est pas seulement la moisson des choses qu'on peut manger, qui sont tellement faciles, mais il y a aussi une moisson qui est devant nous. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui a été donné à la Pentecôte. Alors, pour ceux qui aiment bien les petites images, avant la Pentecôte, la fête de la Pentecôte, c'était uniquement la fête des moissons. Et donc, le Saint-Esprit ne pouvait pas grandir en chacun de nous. Pourquoi il ne pouvait pas grandir? Et parce qu'il n'avait pas encore été donné, il a été donné seulement à la Pentecôte. Et depuis la Pentecôte, il a été donné à tous ceux qui le demandent. Mais il n'avait pas été donné sous forme d'un arbre immense qui donne de super fruits. Il a été donné sous la forme d'une graine que chacun reçoit dans son cœur. Et s'il en fait quelque chose de bien, ça fait un arbre qui porte le fruit du Saint-Esprit. Et s'il n'en fait rien, ça fait une graine. C'est voilà, à chacun donc de voir où est-ce que, à quel niveau, à quelle taille il a laissé grandir le Saint-Esprit en lui. Si c'est un arbrisseau, un arbre, s'il y a de beaux fruits, voilà, c'est un petit peu... Et s'il y a de beaux fruits, ben, il y a de quoi en être reconnaissant. Et donc, moi, j'ai ramené quelques trucs de mon jardin. Alors, c'est vrai que cette année, le jardin, c'est un peu morose, quoi. Mais quand je vois tout ce que j'ai réussi à mettre sur cette table, je me dis, punaise, même dans une année morose où il ne se passe rien, et les arbres fruitiers sont presque vides, il y en a des choses là-dessus. Et c'est que moi, alors j'imagine tous les autres, tout ce qui se fait, bah, c'est énorme, quoi. Voilà, je ne prendrai pas plus de place que ça. Donc vous pouvez regarder à la fin. J'avais presque envie de faire un concours pour les enfants, pour voir combien de choses il y a là-dessus, rien que sur cette table. Vous verrez, il n'y en a pas seulement 5 ou 6. Il y a des petites choses par-ci, par-là.
Merci Christophe pour ce rappel. Et donc j'aimerais aussi dire, après les baptêmes, tout à l'heure, on convie chacun, il y aura un petit apéritif à la fin qu'on fera ici, là, près de cette table, où vous serez chacun cordialement les bienvenus. Alors, quelques mots par rapport... Alors, j'ai vu chacun de ces baptisés, on a eu un entretien personnel, et c'est en accord avec les parents. La caractéristique un peu de ces baptêmes, c'est que ce sont tous des mineurs. On a souvent des baptêmes d'adultes, mais là, ce sont des jeunes qui s'engagent, un peu comme on a eu aussi en juillet dernier, dans le cadre du lac des Corbeaux. Alors là, ça fait un peu froid pour être dehors, mais c'est vrai qu'on apprécie souvent mieux les lacs naturels pour faire ces baptêmes. Mais là, ça sera une baignoire qui n'a rien d'extraordinaire. Mais voilà. J'aimerais juste qu'on fonde ce qu'on va faire dans la lecture de l'évangile de Luc au chapitre 3, versets 21 à 23, et en quelques mots, nous rappeler ce que nous faisons et le pourquoi l'engagement de ces jeunes aujourd'hui. Alors, c'est Luc chapitre 3, versets 21 à 23. Il s'agit de Jésus. Il est dit, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Et il est dit que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, etc. Donc, dans d'autres évangiles, on retrouve aussi ce baptême de Jésus. Et donc, l'idée, c'est que Jésus est un chemin, il est le chemin, nous dit la Bible, et il nous montre, en tant que parfaitement homme, parfaitement Dieu, mais parfaitement homme, il nous montre dans sa vie ce que nous aussi, nous sommes appelés à vivre avec lui. Et il y a c'est plus qu'un désir qu'ont les jeunes là qui ont demandé le baptême, ils ont compris une chose que j'aimerais rapidement réexpliquer aujourd'hui. Premièrement, ce que ça n'est pas. Il y a parfois des idées un peu bizarres sur le baptême. Alors, ce n'est pas une simple cérémonie religieuse. Hein, ce n'est pas une cérémonie. Ensuite, ça n'incorpore personne à une religion ou à une église locale. Ça incorpore au corps de Christ, voyez. Mais ils font déjà partie de ce corps-là. Ils ont déjà une foi vivante en Dieu. Donc, pourquoi le baptême ? Troisièmement, le baptême, il ne sauve pas. Ça ne sauve pas. La Bible est claire là-dessus. Elle dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le baptême ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est recevoir, comprendre ce qu'il a fait pour nous. Comprendre sa vie donnée à notre place, en sacrifice pour le péché. La condamnation qu'on méritait, il l'a prise lui. Comprendre cela, dire, Seigneur, je crois que tu es mort à ma place. Je crois que tu as payé pour moi. Cette foi-là, eh bien, c'est ce qui sauve. Hein? Donc, ce n'est pas le baptême qui sauve. Il n'y a rien de magique dedans. Et puis, dans 1 Pierre 3, 21, l'épître de Pierre, il est dit, cette eau, il parlait du Noé, l'eau de Noé, au temps du déluge, elle était une figure du baptême. et qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais qui est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc c'est clair, c'est pas une purification. Souvent on pense l'eau symbole de purification. Donc le baptême, ça purifie. Ça purifie rien du tout, le baptême. C'est le sang de Jésus qui purifie. Le baptême, c'est, voyez, un engagement. Et c'est vraiment le mot qu'on a souligné avec nos jeunes quand on s'est vus ensemble. Et on les a vraiment, je les ai personnellement trouvés mûrs dans la décision qu'ils ont prise. Ça peut paraître jeune pour certains, on peut se dire, mais est-ce que c'est vraiment fondé, sérieux? Mais ça se fait depuis des années que chacun d'entre eux a fait un cheminement. Et pour plusieurs, cet été a été décisif. Je pense à Aurélie, Victoria en particulier, Stella aussi, ma fille. Ça a été décisif. Il y a vraiment eu comme un électrochoc de prise de conscience que voilà, il fallait pas traîner, il fallait s'engager. Alors, le baptême est un engagement. Un engagement, c'est quoi? L'engagement chrétien, c'est une réponse à un premier engagement qui a eu lieu. C'est l'engagement de Dieu envers nous. C'est pas nous-mêmes qui nous engageons en disant, tu vois, Seigneur, je m'engage, t'as vu comme je suis bien. C'est pas ça. C'est, on comprend son engagement pour nous. On comprend que lui, il a tout donné. On comprend que son amour pour nous est inconditionnel. On comprend cette image qui est derrière ce Père qui prend dans les bras. Et un baptisé, il n'est pas là pour faire plaisir à Dieu. Ils ne se font pas baptiser pour faire plaisir à Dieu. Ils se font baptiser parce qu'ils ont compris que Dieu lui-même s'est donné pour eux, s'est pleinement engagé. D'ailleurs, le mot baptisé est très fort. C'est le mot baptiséo, ça veut dire enseveli. C'est le même mot qu'on emploie quand on enterre quelqu'un. Et Jésus, dans Luc chapitre 12, verset 50, il a dit ceci, il était déjà baptisé, Jésus. Et il a dit ceci, il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli. Jésus, déjà baptisé, dit, il faut que je sois baptisé. Alors on m'a dit, mais c'est quoi ce baptême? Eh bien, il voulait dire, je dois être baptisé d'un baptême, je dois être enseveli, je dois mourir, je dois mourir. Et ça, c'était le baptême de Jésus, c'est la mort. Et donc nous avons ici quelque chose de très important, l'engagement de Jésus pour nous. Et c'est que lorsqu'on réalise cet engagement-là, qu'on est prêt à répondre. En fait, c'est une réponse, vous voyez? Ils ne partent pas dans le vide, là, nos jeunes. Ils ne partent pas dans le vide en disant, bon, je m'engage avec Dieu, est-ce que vraiment ça va marcher? Est-ce que vraiment Dieu va avoir sa main avec moi? Non, ils ont compris que Dieu s'était engagé avec eux. Voilà. Alors c'est un engagement mûri, réfléchi, fruit d'une réconciliation avec Dieu. Ils ont compris un moment, et on a parlé avec eux, j'ai parlé avec eux, ils ont compris que tout seul, ils n'y arrivaient pas. Ils ont compris qu'ils étaient sales. Ils ont compris qu'ils avaient besoin du sang de Jésus, besoin du pardon de Jésus dans la vie de tous les jours. Alors voyez, on continue à discuter avec ce bruit de l'eau qui coule. Hein, et donc, réponse à l'engagement de Jésus. Alors, je sais que, un peu comme un... Je leur ai parlé de ce mariage. Hein, moi, j'ai une bague ici. Voyez, je ne sais pas si vous savez, mais je suis marié. Où est-vous, Manuela, là? Elle est partie. Elle s'occupe de l'eau. Voilà. Donc ça, c'est le mariage. Hein? Eh bien, le baptême, c'est un peu la même histoire. On peut vivre fiancé avec Dieu longtemps. On est fiancé, on aime le Seigneur, on va à l'église, on est content, on chante, on le connaît un peu. Voilà. Mais il n'y a pas d'engagement, voyez? On est un peu fiancé, on apprend à se connaître. Et il y en a qui restent toute la vie comme ça. Ils ne s'engagent pas. Alors, ce n'est pas que Dieu va moins nous aimer. Dieu nous aime comme nous sommes, avec nos faiblesses, même notre non-engagement. Il nous aime et il nous attend à bras ouverts. Mais seulement, il attend enfin, cet engagement qui est comme le fiancé attend que la fiancée, elle vienne s'engager pour lui. Et cet engagement, c'est le baptême. Voyez. Alors, pour nos jeunes, ils aiment Jésus, ils le prient depuis longtemps, ils le connaissent depuis longtemps. Mais aujourd'hui, ils ont dit, bon, ça ne suffit pas de le connaître, maintenant je veux m'engager. Je veux me lier à lui. C'est un lien d'amour. C'est un engagement qui est sérieux. Alors voyez, dans d'autres traditions, ce sont les parents qui s'engagent pour l'enfant. Hein, les enfants qu'on baptise les bébés, etc. Nous avons normalement, ça veut dire c'est l'engagement de la foi des parents. Et Dieu voit la foi des parents, c'est pas rien du tout. Et nous on a choisi plutôt l'engagement conscient au niveau des enfants et pas seulement des parents. C'est un choix, on ne jette la pierre à personne. Mais je crois qu'il y a une importance qui est donnée là, être avoir l'âge de raison pour comprendre ce qu'on fait. Alors, c'est une réponse aussi à son commandement. Ce n'est pas seulement une réponse à l'amour de Jésus, c'est une réponse au commandement de Jésus. Il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé, il a dit à ses disciples, faites des nations des disciples, baptisez-les. Donc ce n'est pas un plus, ce n'est pas une option. Nous avons ici un commandement de Dieu, de baptiser. Alors, en fait, le baptême de Jésus lui-même, voyez, il a refusé d'être indépendant. Il a refusé d'être indépendant. Il a dit, moi, je veux marcher sur le chemin que mon Père a pour moi. Et jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Et donc, ce chemin de Jésus, c'est un chemin d'engagement total. Et c'est parce que lui-même a fait ce chemin-là que nous-mêmes, on peut le faire en lui. Il l'a déjà fait pour nous quelque part. Alors le baptême, c'est dire, voilà, je suis en toi. Rappelez-vous le message de Franck il y a 15 jours, qui parlait de demeurer en Jésus, et que tout ce qu'il vit, Jésus, eh bien c'est pour nous, on peut le vivre en lui. Eh bien ce baptême, c'est pareil. Donc vous voyez, on va parler, c'est le symbole de la mort. Tout à l'heure, Franck a introduit en disant, voilà, il y a quatre jeunes qui vont mourir. C'est une mort, c'est une mort. Alors, ce n'est pas une mort selon la chair, mais c'est une réelle mort quelque part. Et le principe avec Dieu, c'est que la vie de Dieu vient là où on accepte de mourir, là où on accepte de lâcher. Et c'est là que la vie de Dieu vient. Ses disciples, ils étaient en train de travailler, je pense à Matthieu, je pense à d'autres, les péagers, tout ça. Tu travailles, ils étaient en train de bosser, puis Jésus qui dit, viens, suis-moi. Donc il fallait lâcher quelque chose. Et ils ont rencontré ce Jésus, ils ont vécu une vie extraordinaire. Mais ils auraient pu ne pas la vivre. Ils auraient pu rester à leur travail, à la pêche, au bateau, tout ça, à s'occuper de leur job, quoi. C'était bien. Ça n'enlevait rien à l'amour de Dieu. Mais ils loupaient la vie de disciples. Et ils loupaient tout ce que Dieu avait pour eux dans leur vie. Eh bien, le baptême, c'est ce début qui dit, je lâche l'indépendance. Je meurs à quoi? Je meurs à moi-même. Je meurs à mon péché. Je meurs à mes mauvaises habitudes. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une lutte dans la vie. Mais on décide dans ce baptême. C'est comme quelqu'un qui se marie, quand il choisit une femme, il accepte de mourir à toutes les autres. Hein, messieurs? Voilà. On a choisi une femme, ça veut dire tu dis non aux autres. Le baptême, c'est un non. C'est un oui à Dieu, mais le baptême, c'est un non à plein de choses. C'est ça l'engagement. Alors c'est pas un engagement, on n'est pas là pour... C'est pas un engagement de souffrance. Quand on aime vraiment quelqu'un, on est tellement heureux, on les voit même plus les autres, jeune homme ou jeune fille, on les voit plus. On est complètement omnibulé par notre fiancé, notre bien-aimé. C'est ça l'amour. Avec Jésus, c'est pareil. Donc la vie chrétienne, c'est pas une vie, attention, oh là là, là il faut pas que je pêche, oh là là, là attention, je suis tenté. C'est pas ça. Si c'est ça pour vous, excusez-moi, mais ça n'a rien à voir avec la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une passion pour Jésus, une compréhension de son amour, et alors les choses ne sont pas si difficiles que ça. Seulement, ça demande à être accroché à lui, attaché à lui. Donc le baptême, c'est ça. Je meurs avec Jésus. Je perds mon autonomie. Je perds mon indépendance. Et voilà, c'est la mort. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui nous parlent de cette nécessité de mourir. Je pense qu'un des problèmes aujourd'hui, majeur, c'est qu'on veut, dans la communion avec Jésus, un plus. Et on oublie qu'il n'y a pas de plus s'il n'y a pas eu de moins. Et donc nos jeunes, je crois qu'ils sont un exemple pour nous, et pour nous adultes. Où en es-tu avec ton engagement avec Dieu? Où est-ce que tu en es? Après peut-être 20 ans, 30 ans, est-ce qu'il y a cet engagement qui est là encore? Jésus à ses disciples, plusieurs fois il leur a dit, tu peux me suivre. Et au milieu de la route, parfois au milieu du chemin, au milieu du ministère de Jésus, il y en a qui ont dit, moi je te suis plus Seigneur, là ça devient trop dur, là j'arrête. Voyez. Où est-ce que nous en sommes? Et quand vous verrez les jeunes se baptiser, posez-vous la question, où j'en suis moi avec mon engagement? Le troisième point, le baptême, il représente la mort de Jésus pour que je vive la vie avec lui. Je suis mort avec lui, mais quand ils vont se lever tout à l'heure, c'est le signe d'une résurrection. Alors l'eau, en fait l'eau c'est le signe de la mort. Le déluge c'est quoi? C'est l'eau qui ensevelit une humanité rebelle, etc. Donc ça va... Ils vont laisser dans l'eau leur rébellion, leur autonomie, leur indépendance. Hein. Alors attention, il n'y a rien de magique non plus. Il n'y a rien de magique. Les parents qui êtes là, il ne faut pas vous attendre à avoir des saints ce soir. Dans le sens, parfait, t'es baptisé maintenant, s'il te plaît, ça. Non, ne mettez pas la pression, hein, s'il vous plaît. on va laisser le processus. Mais quand même, par la foi, il y a une mort, il y a une résurrection. C'est quelque chose d'absolument, c'est pas magique, parce que ça se prend par la foi. Mais par la foi, ils sont morts ce matin et ils vont ressusciter avec Jésus. J'aimerais lire Colossiens chapitre 2 et suivant. Il est dit, c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Voyez, enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscité en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses, par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a lu publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit qu'il y a un signe sur les chrétiens qui est composé de deux choses, le sang et l'eau. On voit ça dans l'Apocalypse. C'est quelque chose qui n'est pas visible à nos yeux. Mais quelqu'un qui a demandé pardon à Dieu, qui a accepté ce sacrifice de Jésus pour lui, il y a le signe du sang sur sa vie. Nous, on ne le voit pas, mais Dieu le voit. Les puissances spirituelles le voient. Et de la même manière pour l'eau, il y a le signe de l'engagement qui est là. Et dans notre vie ensuite, Dieu peut nous rappeler, rappelle-toi ton baptême. Rappelle-toi ton baptême, qui est le signe de la mort pour vivre une pleine vie avec Jésus. On a vu aussi dans l'Ancien Testament, vous avez des figures, hein, le peuple d'Israël, après l'Exode, après le passage de l'Égypte, la sortie d'Égypte, il passe dans la mer Rouge, et la Bible me dit, mais ça c'est un signe d'un baptême d'un tout un peuple. Nous avons plusieurs passages comme ça, de l'eau, signe du baptême, dans toutes les Écritures. Mais avec Jésus, c'est tout à fait particulier. Et vous remarquez une chose, il s'est passé deux choses extraordinaires quand il s'est baptisé. La première, c'est qu'il entend cette voix qui dit « Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » J'aimerais dire à Nicolas, hein, Aurélie, Victoria, Stella, ça c'est la voix de Dieu pour vous ce matin. « Tu es mon fils, tu es ma fille, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et c'est cette affection de Dieu que Jésus lui-même a entendu du ciel. Vous allez me dire, mais Jésus, c'est Dieu, il aurait pu se dispenser d'entendre comme ça des choses. Mais Jésus est aussi parfaitement homme. Et en tant qu'homme, il a besoin d'entendre la voix de son Père, qui lui dit, tu es mon fils bien-aimé. Et vous remarquez que c'est quand Jésus s'est engagé qu'il a entendu cette voix. Et je peux dire une chose, un grand principe biblique, quand on s'engage avec Dieu, il y a l'affection de Dieu avec nous. Dieu s'engage avec ceux qui s'engagent. On est déçu dans notre vie chrétienne quand on vit une vie qui n'est pas engagée. Et on dit, mais où es-tu Seigneur? Je te sens loin, où es-tu? Jésus s'engage immédiatement, une voix qui vient du ciel. J'approuve ce que tu fais. Et puis aussi le symbole du Saint-Esprit, la colombe, hein, qui vient, qui descend sous forme corporelle, qui nous parle de ce Saint-Esprit qui va descendre pleinement sur lui. Et tout à l'heure, quand ils ont été trempés dans l'eau, on va prier pour eux également, pour qu'ils reçoivent une pleine onction du Saint-Esprit. Et Jésus l'a reçu après son baptême. Alors, ce n'est pas un principe, ce n'est pas parce qu'on se baptise qu'on reçoit automatiquement. Parfois, c'est avant. Moi-même, par exemple, j'ai vécu une expérience extraordinaire avec le Saint-Esprit avant d'être baptisé. Mais bon, on va prier pour eux après. Et ce que j'aimerais, c'est que, après que chacun soit baptisé, on prenne quelques temps. Je pense que le mieux, c'est qu'ils auront leur serviette, tout ça, pour pas qu'ils aient froid. Mais on va prier sur eux directement après, dès qu'ils sortent des eaux du baptême. Et c'est tout le corps. Je rappelle que le baptême, c'est devant l'Église. Ça veut dire que l'Église, c'est une alliance. L'Église s'engage aussi avec eux. Elle s'engage avec eux à les accompagner. Ils ne sont pas tout seuls dans cet engagement. Ils ont l'Église avec eux. Et votre présence aujourd'hui est tellement importante, familiale, ecclésiale. Ils ne sont pas tout seuls. Quand on est tout seul, on ne tient pas. On ne tient pas. Le travail du diable, c'est toujours de nous éloigner. Le travail de Dieu, c'est de nous rapprocher, rapprocher, rapprocher. Donc voilà la voix qui vient du ciel. Cette voix-là, c'est la même aujourd'hui. C'est la même affection de Dieu pour vous aujourd'hui. Alors j'aimerais appeler simplement maintenant... Alors, aucun n'a un débit peut-être facile de parole, hein. Donc, on va être plein de patience, de gentillesse. Mais j'aimerais quand même leur demander, et peut-être on va commencer par l'aîné, Aurélie, si tu veux venir. Voilà, allez, on l'encourage. La question, c'est pourquoi tu veux te faire baptiser?
Je veux me faire baptiser parce que je veux aller plus loin avec Dieu, je veux vivre plus de choses avec lui et parce que je veux montrer à tout le monde à qui j'appartiens. Voilà. Et je remercie aussi mes parents et tous ceux de ma famille qui sont là aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir. Voilà.
Ça vous va comme c'est clair quand même Merci Aurélie. Merci Aurélie. Voilà. Ensuite, si on va dans la série, c'est Stella. Ah, elle est partie. Alors Victoria. Alors Victoria, il s'est passé un truc là Et ça va être mon premier baptême d'emplâtré. Non. Alors, elle a tenu, je lui ai donné le choix, j'ai dit, écoute, alors on va pas baptiser le plâtre, elle va avoir la jambe dehors, mais elle est tellement, quand elle s'est fait ça, j'étais là et elle pleurait parce qu'elle avait mal, mais pas seulement. Alors je lui disais, mais qu'est-ce que t'as? Elle me dit, je dois être baptisée et voilà que j'ai ça. Elle était énervée et triste parce qu'elle pensait que ça allait remettre en question. Donc vraiment, c'est une enragée et j'aimerais vous la... Voilà, allez.
Ben, moi, je vais me faire baptiser pour m'engager avec Dieu et pour vivre plus loin avec lui.
Voilà. Amen. Merci, Victoria. Donc voilà, ça fait plusieurs années qu'elle chemine, mais là, je crois qu'il y a eu cet été, il y a eu des camps. En particulier, j'aimerais dire aux parents, ces engagements sont le fruit, bien sûr, de l'engagement des parents. Mais il s'est passé des choses cet été, en particulier dans des camps chrétiens. Et moi, j'aimerais vous encourager, parents, à prendre au sérieux la possibilité de ces camps chrétiens en été. Il se passe souvent beaucoup de choses dans ces camps-là. Voilà. Alors ensuite, on continue. Nicolas, si tu veux venir. Alors Nicolas, c'est le plus jeune.
Moi, je veux me faire baptiser parce que je sais que c'est lui qui va me conduire dans ma vie pour toute ma vie.
Toute ta vie.
Ouais.
Alors, tu l'aimes depuis longtemps, le Seigneur?
Oui.
Plusieurs années déjà,
Oui.
Voilà. Et qu'est-ce qui est le plus précieux pour toi dans ta relation avec Dieu, par exemple? Qu'est-ce qui est le plus précieux pour toi?
Moi et lui.
Moi
et lui.
J'ai pas entendu. Ah, moi et lui. C'est le plus précieux, c'est la relation alors. La relation. En tout cas, on est vraiment... Là, vous voyez, on a un jeune, on a une responsabilité d'église. Ensuite, vous voyez, pour l'accompagner. Et pour... voilà. Peut-être les temps seront pas toujours simples, mais on est là, à ses côtés, avec la famille. Super, Nicolas. Allez. Stella. Voilà.
J'aimerais me faire baptiser parce que j'aime Jésus et je veux le suivre. Et j'aimerais remercier aussi tous les gens, les enseignants, ma famille, qui m'ont permis d'arriver là avec Dieu. Et j'aimerais donner à Dieu tous les domaines de ma vie. Et puis même si c'est dur, lui il est mort pour moi, alors pas grand chose.
Super, merci Stella. Voilà. Vous voyez, donc il remercie les parents, les enseignants qui êtes là aussi, c'est le fruit de votre travail également, les parents qui ont prié, accompagné, tout ça. Il y a vraiment votre fruit qui est là. Et on parlait de la fête des moissons, mais là je peux vous dire, c'est la plus belle des moissons. Hein, c'est vos enfants, c'est nos enfants. C'est ça le plus précieux. Voilà. Alors, ils sont tous changés, c'est ça? Voilà, donc on va commencer par l'aîné, ça, hein, Aurélie, décidément. Hein, voilà. Allez.